La CV qui souffre d'une extinction de voix, c'est Audrey Pinchot qui a accepté de la remplacer.
C'est difficile.
On est-tu si pire que ça?
Ah, moi, j'ai du plaisir quand je vais voir.
Oui? C'est quoi le sujet que tu aimes aborder avec nous autres?
Eh, hey, mon Dieu!
Plus human interest ou des sujets d'actualité?
Je te dirais de tout. Ça dépend toujours. Moi, j'ai pas le choix de t'avouer, puis je devrais peut-être pas dire ça compte tenu de ma job, là, mais il y a vraiment des sujets politiques, des fois, qui vont m'emmerder parce que certains partis sont pas capables de garder mon attention. Ou, fait qu'il y a des sujets avec lesquels j'ai un peu plus de difficultés, mais ça fait partie du day-to-day de devoir en parler et en débattre, en toute honnêteté.
Ce sera pas facile. Pour les prochaines minutes, on a le plaisir d'aller rejoindre Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Je sais pas si tu vas t'entendre avec. Là, des fois, il est raide un peu. Là.
Ben, j'ai hâte de l'entendre, en fait.
Oui!
Salut, Nick!
Je vais être assez fair. Salut tout le monde, ça va bien?
Ça va très bien, ça va très bien. Quand on entend austérité, ça fait-tu si peur que ça, l'austérité? Parce que moi, l'austérité, c'est OK. Ben, c'est dans un moment où tout le monde a besoin de son argent, puis tu veux leur en demander le moins possible. Tu dis OK, on va peut-être faire le ménage de nos finances en premier avant de le demander, d'en demander plus aux contribuables. Pourquoi ça fait peur à tant de gens que ça, l'austérité? Puis c'en es-tu vraiment de l'austérité qu'on a connue dans les dernières années au Québec?
Ben, ça, c'est si on peut appeler ça de l'austérité en bonne et due forme, parce qu'effectivement, on a beaucoup joué avec les mots. Hein. On a la difficulté à définir si on parle d'austérité ou on parle de rigueur budgétaire. Mm. Ça dépend de quel bord on est de l'histoire, parce qu'on sait que les libéraux aiment plus parler de rigueur budgétaire, puis ben ceux qui ont critiqué leur façon de gérer l'économie et les finances publiques quand ils étaient au pouvoir, surtout sous Couillard, ben, ont tendance à dire que c'est de l'austérité. Puis c'est drôle parce que là, on a comme eu un retour de cette discussion-là en fin de semaine avec le congrès qui s'est tenu, je sais pas si c'était à Montréal, mais je prends pour acquis que c'était sûrement peut-être dans ce coin-là. Ben, bref, les libéraux sont réunis puis ont discuté de plusieurs enjeux économiques, puis surtout pour préparer là, leur fameuse course à la chefferie, parce qu'ils espèrent attirer des pointures qui vont reprendre le flambeau de ce qui avait déjà été mis de l'avant par Anglade, Couillard et d'autres libéraux, Charest et autres avant eux. Et ça a été aussi un moment pour les libéraux de célébrer en fait l'héritage de Couillard, où est-ce qu'on rappelait effectivement que sa rigueur budgétaire avait permis au gouvernement à l'époque d'avoir un surplus budgétaire, on s'en rappelle, en 2018, le plus important surplus budgétaire de l'histoire du Québec. Donc oui, il y avait eu des coupures dans certains endroits, où il y avait eu une diminution de certaines dépenses, mais au final, il y avait un réinvestissement massif dans les années 2016 et 2017 qui ont suivi la fameuse austérité de 2015. Et finalement, on s'est ramassé quand même avec des finances publiques qui étaient beaucoup plus reluisantes qu'elles ne le sont aujourd'hui, avec un déficit de 11 milliards. Et c'est drôle parce que j'ai un bon ami, un économiste à l'Université de Mason aux États-Unis qui s'appelle Vincent Geloso, qui est un peu connu au Québec en tant qu'économiste. Puis lui, il a déjà publié des rapports qui comparaient en fait l'austérité des différents, la rigueur budgétaire des différents premiers ministres depuis 1944. C'est drôle parce que ceux qui ont fait preuve de plus de rigueur budgétaire, donc qu'on accuserait nécessairement d'austérité, c'est surtout Parizeau puis Bouchard. C'est si on regarde là, depuis 1944, c'est ces deux gouvernements-là qui ont vraiment fait plus de réduction des dépenses.
Ils ont coupé, oui.
Oui, qui ont fait un peu de réduction de dépenses publiques par année pendant leur mandat par rapport à Couillard qui a fait de la rigueur budgétaire, certainement. Il a réduit un peu les dépenses, mais vraiment pas autant que certains autres péquistes. Alors que ceux qui ont fait preuve de moins de rigueur budgétaire dans l'histoire du Québec, dans l'ordre, c'est Jean Lesage, on a aussi Bourassa dans son premier gouvernement, et finalement François Legault, qui est possiblement qui fait preuve de moins de rigueur, qui est le troisième premier ministre depuis 1944 à faire preuve de moins de rigueur en termes de gestion des finances publiques. On remarque une augmentation drastique des dépenses. Malheureusement, la question qui mérite de se poser, c'est est-ce qu'on a un retour, nous, en tant que bénéficiaires de ces services-là? On remarque qu'on paye plus d'impôts, on met plus d'argent dans la machine, mais est-ce qu'on a plus en retour en termes de services? C'est malheureusement pas le cas.
Oh non,
plusieurs ont tendance à accuser l'époque Couillard d'avoir était responsable de tous les problèmes qu'on connaît dans le système, ne serait-ce que dans le système de santé ou d'éducation présentement, qui serait quand même très poussé, voire tiré par les cheveux. Parce que je veux dire, c'était quand même juste 4 ans, le gouvernement de Couillard, puis il y a juste eu 1 an et demi de réduction de dépenses à certains égards, qui ont quand même mené un réinvestissement dès les années qui ont suivi. Je veux pas non plus faire l'apologie des libéraux, je veux pas les défendre. La réalité, c'est qu'au final, ils ont pas vraiment fait d'austérité. Ils ont plutôt réduit certaines dépenses pour réinvestir. Ils ont jamais fait de coupure absolue. qui ont mené une réduction de la taille de l'État québécois.
Puis mettons qu'on essaie d'avoir une grande rigueur budgétaire dans les prochaines années, là, comment ça peut se traduire pour nous, mettons, simples citoyens?
Bien, c'est une très bonne question, parce que nous, la dernière des choses qu'on veut présentement, c'est que le gouvernement se tourne de bord en se disant, bien écoutez, on a un problème, on a un déficit de 11 milliards, faut qu'on aille chercher des revenus supplémentaires. Pour nous, c'est pas la solution acceptable, parce que les revenus supplémentaires viendraient nécessairement de plus d'impôts et plus de taxes. Le problème présentement du gouvernement, c'est qu'il dépense trop, c'est pas une question de revenus. Donc nous, ce qu'on espère, c'est plutôt qu'il va se lancer dans cet exercice d'assainir les finances publiques, pas dans le but de couper les services, mais de couper dans le superflu, de couper dans les programmes qui ne sont plus utilisés ou qui mènent à une mauvaise utilisation de l'argent des contribuables. Et pour ça, ça demande un exercice qu'on pensait que le gouvernement de François Legault ferait ce printemps, et finalement, ils l'ont pas fait. Du moins, pour l'instant, j'ai pas entendu parler de ça. C'est qu'ils ont annoncé dans leur dernier budget qu'ils allaient faire un examen des programmes sur deux volets. Ils allaient regarder les revenus du gouvernement, puis en plus, par la suite, ils allaient regarder les dépenses. Et généralement, on s'attend à ce qu'ils fassent un ménage, puis qu'ils s'assurent soit de dégager des économies, puis de réinvestir ça pour qu'on ait une amélioration des services au final, ou sinon, ben justement, que cette réduction-là permette d'éponger les déficits et éventuellement de procéder à d'autres baisses d'impôts, comme ils veulent toujours le faire, du moins, c'est ce que François Legault et son ministre des Finances disent. Ils veulent quand même donner des baisses d'impôts du moins au lendemain des prochaines élections. Donc nous, au final, où est-ce qu'on est gagnant? C'est qu'on espère que ça va donner un exercice qui réduit les déficits, qu'on a une meilleure gestion des finances publiques et au final, oui, qu'on arrête de payer autant de milliards de dollars comme c'est le cas sur des intérêts de la dette qui ne fait qu'augmenter à chaque fois qu'on augmente les déficits.
Mais c'est une roue qui tourne. Hein. Stephen Harper avait une rigueur budgétaire. Il a remis les finances du Canada sur les rails. Puis, élection arrive, les gens étaient un peu tannés de Stephen Harper. Ils ont dit, tiens, il y a Justin Trudeau qui est là. Lui promettait de faire des déficits. C'était dans son plan. Puis les gens ont dit, hey, ça a bien du bon sens. Il promet de faire des déficits. Puis ils ont voté pour lui. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les conservateurs tendent à revenir dans les sondages. Pierre Poilievre est premier actuellement. Puis les gens sont écœurés que Justin Trudeau dépense leur argent constamment sans aucune rigueur budgétaire. C'est une roue qui tourne. Puis au Québec, là, tu te demandes comment ça peut se traduire, la rigueur budgétaire? Bien, du moins en apparence, c'est-à-dire que le gouvernement devrait peut-être attendre les audits de performance du RTC avant de permettre de donner plus d'argent au RTC. T'sais, ils n'ont pas d'audit de performance, mais on dit, ouais, mais ils ont besoin quand même d'argent. Ouais, mais combien d'argent ils ont besoin? Ah, c'est pas grave, on va augmenter la taxe sur l'immatriculation, puis en plus, on va permettre, en tant que gouvernement provincial, que nos municipalités puissent prendre une taxe, prélever une taxe sur chaque litre d'essence. Ça n'en est pas, ça, de la rigueur budgétaire. Ça n'en est pas. Ils ne savent pas comment ça leur coûte, ils ne savent pas quoi faire. Puis tout ce qu'ils trouvent de facile à faire, c'est-à-dire, c'est de piger dans les poches des contribuables, c'est la seule façon. Tu sais comment on fait pour regarder s'il fait vraiment froid dehors? Si le politicien...
Bon,
non. Non, si le politicien a les mains dans ses propres poches et qu'il fait vraiment fret.
Bon.
Ah, non, effectivement, mais tu l'as dit, c'est malheureusement ça le problème. Trop souvent, on ne veut pas faire cette rigueur budgétaire, on ne veut pas faire cet exercice financier qui nous amène des fois à prendre des décisions qui sont un peu plus difficiles, ou est-ce qu'on va couper dans certains effectifs. Pas dans le but de couper les services au final, mais dans le but d'améliorer aussi la structure bureaucratique qui est souvent trop lourde. En fait, c'est souvent le reproche qui est fait par plusieurs au Québec et même de l'extérieur du Québec qui essaient de s'y investir. C'est qu'on a une bureaucratie qui est beaucoup trop lourde. La RTC en est un excellent exemple d'ailleurs. Et au lieu d'essayer de trouver des moyens de réduire sa structure pour justement la rendre plus souple et la rendre plus adaptée, plus facilement adaptable aux différents enjeux, non, on va dire, ben écoutez, on va garder la structure actuelle, on va se trouver des revenus supplémentaires, on va aller chercher quelques dollars de plus par année sur les immatriculations des gens, par exemple, et c'est comme ça qu'on va être en mesure de continuer à fonctionner, alors qu'au final, on fait juste prêter davantage de citron en refusant de faire l'exercice qui s'applique. Et ben malheureusement, au final, c'est le contribuable qui est trop souvent pénalisé par ce refus de rigueur budgétaire, mais il faut quand même mettre la distinction assez claire entre ce qui est de la rigueur budgétaire, donc une gestion assidue des finances publiques, et de l'austérité, où est-ce qu'on parle de coupure absolue. Et ça, malheureusement, je dis malheureusement, c'est qu'on n'a jamais vraiment fait l'exercice au Québec. Il n'y a jamais eu de coupure où est-ce qu'on a fait disparaître un ministère ou vraiment des programmes à coût de millions de dollars là, du jour au lendemain. Ça s'est fait au fédéral à plusieurs reprises. Stephen Harper l'a fait, Paul Martin l'a fait dans leur propre études, des programmes à l'époque pour justement mettre de l'ordre dans les finances fédérales. On aurait aimé ça que Justin Trudeau le fasse, mais on s'attend honnêtement rendu là, je mettrais pas trop d'attente. Mais ce qui est dommage, c'est que pour François Legault avait dit qu'il ferait cet exercice-là ce printemps, et ça n'a pas encore été fait. Du moins, j'ai pas entendu dire ou entendu parler de ça pour l'instant. Et là, on se dit, ben finalement, on n'a pas de plan pour le retour à l'équilibre budgétaire. On n'a pas de travail qui est fait par le gouvernement actuel pour rééquilibrer les finances. Et on a des promesses qui sont données à droite et à gauche, mais on voit rien arriver. Et il faut se dire une chose. Les élections approchent à grands pas. Le prochain budget, il est important parce que c'est là que le gouvernement Legault s'est engagé à nous livrer un plan pour le retour à l'équilibre budgétaire. Mais l'année suivante, c'est l'année des élections. J'ai jamais vu un seul gouvernement faire des coupures durant une année électorale. C'est plutôt le contraire. On va dépenser puis offrir des chèques et des baisses d'impôts supplémentaires.
Ils pètent le problème par en avant.
Exactement.
Puis comment on peut l'échapper à ce point-là avec un budget? On dirait que dans ma tête, puis bon, c'est sûr que je suis pas en tête d'un gouvernement, là, mais il me semble que c'est simple. Tu fais tes calculs, tu rentres bien tes affaires dans Excel, puis plus moins. Là, je sais pas si c'est moi qui... Je comprends pas comment on est capable de l'échapper à ce point-là.
Ben malheureusement, je pense que c'est un changement de mentalité qui s'est opéré dans le gouvernement de François Legault, parce que quand il était élu en 2018, c'était supposé être un gouvernement qui voulait être proche des gens, qui disait ça de même, mais qui voulait à la fois faire preuve de rigueur dans la gestion des finances publiques, mais en réinvestissant massivement en santé et en éducation. On se rappelle, on nous parlait de la maternelle 4 ans à l'époque, ouais. De toutes ces choses-là qui ne verront pas le jour d'ici la fin de la décennie. Mais il n'en reste que, le gouvernement a vraiment eu un changement drastique dans sa manière de gérer. On s'entend que quand Legault est arrivé au pouvoir, c'était « Monsieur, on va développer les hydrocarbures », puis en 2022, c'était celui qui les interdisait, littéralement. Donc, c'est un changement de cap assez drastique, juste sur une seule de ses visions économiques. Donc, c'est pas juste lui qui gère les finances, on s'entend, mais c'est une question de l'ordre des priorités. On se rappelle que au dernier budget, on nous a dit qu'on avait un déficit plus important à cause des concessions qu'on a faites au syndicat de la fonction publique, qui est à moitié vrai. Mais n'en reste que quand on dit ça ouvertement, on vient automatiquement dire qu'on va pas aller plus loin qu'on va pas se battre avec les syndicats pour justement faire un peu plus de ménage dans l'ensemble des structures publiques. En faisant des concessions comme on l'a fait au dernier budget, c'est l'inverse. On a dit qu'on allait enterrer la hache de guerre pour l'instant, du moins pour les 5 prochaines années de la convention collective. Et là, ça lie un peu les mains du gouvernement qui doit continuer à dépenser. Et en espérant que la croissance de l'économie va permettre de rééquilibrer les choses. Mais on voit tous très bien que présentement, c'est pas au rendez-vous.
Hey, souviens-toi, 2018, François Legault disait au gouvernement en place qu'il devait remettre le 1,4 milliard de trop perçu d'Hydro-Québec. Il luttait contre ça, en disant « Hey, il faut donner ça ». Puis quand ils ont pris le pouvoir... Ils ont juste donné la moitié du 1,4 milliard. Et François Legault avait dit, parce que les journalistes demandaient, oui, mais l'autre moitié, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Ça appartient aux Québécois. C'était des trop perçus d'Hydro-Québec. Vous devriez redonner, comme vous l'aviez promis, le 1,4 milliard de dollars. François Legault avait dit, les Québécois ne jugent pas prioritaire le remboursement des trop perçus d'Hydro-Québec. De toute façon, ils vont bénéficier de la réduction de la taxe scolaire et de la hausse des crédits d'impôt pour les familles.
J'ai pas été consulté.
T'as pas été consulté, hein? Mais c'est fou quand on revient dans le temps, à quel point on s'aperçoit que ces gens-là font n'importe quoi avec notre argent.
Mais effectivement, c'est drôle parce que c'est un combat de la Fédération canadienne des contribuables, puis on avait relativement gagné ce combat-là en 2019 avec le passage du projet de loi 34. Puis à ce moment-là, effectivement, ils ont annoncé qu'elle allait finalement procéder au remboursement des trop perçus. J'ai pas les chiffres exactement en tête, mais il y a une partie seulement de ce montant-là qui avait été remis directement sur les factures des gens. Et le reste, des trop perçus, puis ça, c'est ce qu'on trouve un petit peu, très dommage. C'est qu'au final, ils ont dit, on va vous les remettre, mais c'est parce qu'on gèle les tarifs pour les deux prochaines années. Parce qu'on se souvient qu'en 2020-2021, il y avait un gel des tarifs d'Hydro-Québec.
Ouais.
Et donc, à ce moment-là, ils ont dit, vu que vous avez eu un gel, c'est comme si on vous remettait vos trop perçus en n'augmentant pas les tarifs. essentiellement, on a joué avec les chiffres pas à peu près, là. Mais oui, c'est ce genre d'engagement-là qu'on a dû taper très fort pour s'assurer d'avoir des résultats. Puis on en a eu, mais encore une fois, c'était pas exactement la victoire qu'on aurait espérée. Mais ça vous donne une idée à quel point, des fois, les gouvernements peuvent s'engager à faire une chose et faire le contraire du jour au lendemain.
Là, êtes-vous en guerre avec Radio-Canada, là?
Toujours.
Always.
Non, ben, non, pas du tout. En fait, on n'est pas en guerre. Je trouve qu'ils sont respectables. C'est une bonne institution. Mais il en reste que côté de transparence, ils ont des problèmes. Puis, ben, nous, ce lundi, en fait, on a entamé une procédure judiciaire à l'égard de Radio-Canada pour être en mesure d'obtenir une information qui semble bénigne pour certains, mais qui est assez importante. On veut savoir c'est quoi la rémunération et les bonus qui ont été versés aux 7 cadres exécutifs de Radio-Canada CBC, qui inclut également la présidente directrice générale, Catherine Tate. Puis je vais vous donner un peu le contexte à ça, c'est qu'on se souvient peut-être en 2023, vers la fin de l'année, il y a eu une annonce de mise à pied par centaines d'employés quelques semaines avant Noël chez Radio-Canada. Et par la suite, Mme Tate a été passée en entrevue à Radio-Canada, justement, et elle s'est fait demander si les bonus allaient être distribués aux employés au cadre cette année, malgré les coupures. Et à ce moment-là, elle a refusé de répondre en entrevue. Elle a été emmenée après ça en commission parlementaire. À ce moment-là, nous, on a été en mesure de divulguer l'information selon laquelle 15 millions de dollars avaient été versés en bonus chez Radio-Canada au cours de l'année 2023 parmi 1000 employés environ. Et bon, là, ça avait fait couler beaucoup d'encre. Par la suite, nous, on a fait une deuxième demande d'accès à l'information. On voulait savoir les cadres en haut, là, les 7 qui gagnent les plus gros salaires, qui prennent les plus importantes décisions, et gagnent combien eux autres. On envoie ça en mars. En avril, un mois plus tard, Radio-Canada nous décide de faire, ben, pas de l'obstruction, mais ils demandent une prolongation d'un mois. Et puis finalement, en mai, ben, Mme Tate se retrouve encore une fois en commission parlementaire, puis là, elle n'a pas le choix de divulguer les salaires. Donc là, on a appris que les 7 plus importants cadres de Radio-Canada, ils ont gagné l'année dernière 3,8 millions de dollars. C'est environ 540 000 dollars par tête de pipe environ, là, donc c'est quand même pas rien. Mais on connaît pas la part des bonus à ce niveau-là. Les bonus qui ont été distribués, je tiens à le rappeler, en 2023, alors qu'on faisait des coupures massives, alors qu'on allait demander plus d'argent au gouvernement fédéral parce qu'on disait que les finances n'étaient pas trop belles. Et par-dessus le marché, ben, faut dire une chose. C'est de l'argent des contribuables. Le 1,4 milliard de dollars de budget dont dispose Radio-Canada présentement, c'est l'argent des contribuables. Et donc, c'est le moindre des choses qu'on soit un peu au courant de comment cet argent-là est distribué. Donc, nous, considérant que Radio-Canada refuse à ce jour de nous divulguer l'information par rapport aux bonus des cadres, ben, on a entamé une procédure judiciaire auprès du commissariat de l'information du Canada, qui est un organe qui nous permet de régler des litiges quant à l'accès à l'information de différents documents. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, d'un, c'est une question de transparence. De deux, on fait ça assez souvent. Ça sort de l'ordinaire, parce que c'est pas tout le monde qui se lève un jour en disant, je m'en vais me battre contre Radio-Canada, puis je vais peut-être gagner ou puis je vais peut-être perdre. Mais nous, on le fait parce que c'est dans notre mandat. Puis c'est aussi une question de dire que, ben, il y a plein de sociétés d'État qui font cet exercice de transparence-là. La Banque du Canada divulgue les bonus de ses cadres. La Société des hypothèques et de logements du Canada divulgue les bonus. Mais la Société Radio-Canadienne, elle, qui est essentiellement financée par les contribuables et dont une bonne partie, surtout CBC, bas de l'aile depuis des années, ben, eux sont incapables de nous divulguer plus d'informations. Donc, c'est pour ça qu'on va leur tirer les verres du nez. Puis, si on est chanceux, ben, on va toucher du bois. On devrait pouvoir divulguer l'information au grand public une fois qu'on aura réglé ça en justice.
Mais ils font bien d'être gênés. Ils coupent tous les petits salariés, puis eux, ben, se donnent des bonis pareils, même si dans la boîte, l'argent ne rentre pas comme devrait rentrer. C'est épouvantable, puis il faut que l'information sorte. Puis merci beaucoup à la Fédération canadienne des contribuables. Vous êtes extrêmement efficace, puis on souhaite que vous gagniez ce combat-là, encore une fois, contre Radio-Canada.
Ben, on va l'espérer, puis soyez assurés d'une chose, vous allez être les premiers à le savoir.
Salut, mon ami!
Toujours un plaisir, salut.
Merci. Bye. L'excellent Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables.
Puis, sympathique, lui.
Sympathique, hein? Brillant, comme, brillant comme pas possible. 1h06, on va faire une courte pause juste avant, Audrey.
Oui, il y a des problèmes dans la circulation capitale direction ouest, là, entre Robert Bourassa et Henri IV. Léger ralentissement. C'est surtout sur le pont que c'est difficile en ce moment. Direction sud, là, il y a un certain ralentissement, surtout à l'approche de la 20 quand vous arrivez sur la rive sud. Quoi que ce soit d'autre, 88 971 1021 par texto.
Marceau le midi.